le truc un peu honteux que tu manges en cachette.
Des nuggets du McDo.
Oh, ah, je m'attendais pas du tout à ça.
À ce moment-là, je me suis posé la question.
D'arrêter ? Puis,
ouais, d'arrêter. J'aurais pu arrêter à ce moment-là parce que vraiment, ils m'ont fait douter et c'était profond.
Est-ce que tu aimes la notoriété ?
Je la déteste pas.
Dans ce nouveau numéro du Foodcast, les amis, j'ai l'honneur de recevoir, et je suis un peu stressé, ma chef préférée, la personne qui m'a sans doute servi le déjeuner le plus inoubliable de ma vie, les plats que je n'oublierai jamais et auxquels je repense régulièrement. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphanie Le Callec. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Alexis, bah merci beaucoup pour... je suis très touchée par cette introduction.
C'est très sincère.
Et merci pour cette invitation.
Alors Stéphanie, depuis qu'on se connaît, on se vouvoie. Donc ouais. Ma première question c'est, est-ce qu'on peut enfin se tutoyer?
À partir du moment où on est dans le canapé tous les deux, je pense qu'on va passer au tutoiement.
Ah, trop bien. Ça y est, cette interview démarre très très bien. Merci d'être là en tout cas, vraiment ça fait super plaisir.
Moi
surtout
aussi.
Que je sais que t'as un agenda qui est surchargé et qu'il est difficile de trouver des moments pour se libérer.
On a trouvé.
Ouais.
Quand on veut, on peut.
Bon, bah merci en tout cas. On va reparler un petit peu de toute ta carrière, de ton actu évidemment. Il y a le livre qui est juste derrière, qui vient de sortir, donc on en reparlera dans un instant. Toi, tu viens d'Enghien-les-Bains à l'origine ?
À l'origine, ouais. Je suis née à Aubonne dans le Val d'Oise et j'ai grandi en Enghien-les-Bains jusqu'à l'âge de 18-19 ans.
Dans quel style de famille ? C'est une famille riche, pauvre ?
Non, bah, ni riche ni pauvre. Je dirais, classe moyenne, mais de banlieue parisienne, avec un bon socle familial.
C'est-à-dire quoi,
un bon socle familial, c'est-à-dire des parents qui sont encore ensemble aujourd'hui, donc une famille, pas de famille recomposée, des grands-parents, le sens de la famille, vachement, c'est-à-dire on se réunissait beaucoup autour de la table, très souvent, donc les grands-parents, les oncles, les tantes, enfin la famille au sens très large, avec cette espèce de clan un peu, il y a un côté un peu clanique.
Ils faisaient quoi tes parents dans la vie ?
Alors, mes parents, mon père était cadre dans l'informatique et maman était commerçante. Donc, des petits articles de filles, des petites choses pour les cheveux, des savons, enfin plein de trucs un peu sympas.
Frère et sœur ?
Une petite sœur.
Et
5 ans de moins.
D'accord. Elle fait quoi aujourd'hui ?
Écoute, elle est opticienne.
Ah, okay.
Rien à voir.
Rien à voir, je vois ça. Et donc, tu me dis, on aimait bien manger chez toi. Il y avait quand même cette... on faisait la cuisine ou on allait au restaurant ?
Non, on n'allait pas beaucoup au restaurant. On faisait la cuisine, on avait la culture de la table. Alors d'abord, on avait la culture de la table et des bons produits parce qu'à Enghien-les-Bains, il y avait un supermarché couvert. Pas un supermarché, mais un marché super.
D'accord.
Couvert, 3 fois par semaine. Et donc, il y avait cette culture déjà d'aller au marché, d'aller chez le maraîcher, d'aller chez le volailler, d'aller chez la dame qui faisait pousser ses champignons de Paris dans sa champignonnière et qui ne vendait que ça.
Ouais.
Donc moi, j'ai connu ça enfant, que ce soit avec ma maman ou avec mon grand-père le samedi matin, d'aller au marché, d'aller chercher cette quête du bon produit, de rentrer, de se mettre en cuisine sur des produits frais. Cette culture de entrée, plat, dessert, le vrai menu traditionnel à la française. Pas de cantine jusqu'à ce que j'aille à l'école hôtelière à Paris. Donc, maman, elle bossait, mais elle rentrait à la maison nous faire manger tous les jours avec ma sœur.
C'est beau, ça.
Et puis, les dimanches midi, mijoter, les apéros qui traînent, les Noëls, les anniversaires, les fêtes des mères à 25 autour de la table dans un petit appartement de 70 mètres carrés parce que mes parents, ont acheté des petites chambres de bonne qu'ils ont réunies au fur et à mesure que la famille s'est agrandie.
Ah, c'est beau comme histoire.
Et puis, donc, on poussait tous les meubles. Et puis, d'un seul coup, mon père construit une espèce de grande table magnifique où on tenait à 20, 22 autour. Et puis, ça rythmait vraiment toute l'année, quoi. Il y avait toujours un truc qui se passait.
Et le premier resto, tu te souviens, la première fois que tu vas dans un resto, un vrai restaurant ?
Alors, on a à cette époque-là, mes parents ont des amis qui ont un restaurant à Enghien-les-Bains, mais ce qu'on appelle de la bistronomie aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est un peu le truc qu'on fait 2 fois par an ou pour une occasion.
Ouais.
Et puis, il y a un espèce de rituel qui est... j'ai toujours beaucoup aimé la gastronomie asiatique. Et donc, il y a un espèce de rituel qui est que pour mon anniversaire le 6 décembre... On va au restaurant, donc on prend la voiture, on va à Paris, c'est déjà une démarche, tu vois,
quand tu
vis en banlieue.
Ouais.
Et donc on va dans un restaurant formidable qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Tan, rue des Saint-Pères, et donc c'était le rituel. Donc on allait se faire ce restaurant chinois pour mon anniversaire. 6 décembre, on se faisait les Galeries Lafayette, et le printemps, les vitrines de Noël, et puis on rentrait. Donc ça, c'était un peu l'événement, mais la rencontre avec l'étoilé, elle va venir beaucoup plus tard, à l'âge de 19 ans. Quand je fais mon premier stage au Georges V et que pour me remercier, on m'offre un déjeuner au 5. Et là, d'un seul coup, je découvre ce qu'est un restaurant étoilé. J'avais jamais connu ça avant.
On va en reparler dans un instant. Mais avant, toi, t'étais quel genre d'enfant ? T'étais plutôt sage ?
plutôt sage, plutôt timide. Moi, j'ai été élevée vraiment dans des valeurs avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de...
De règles.
Ouais, pas de rigueur, mais voilà, des règles, de l'éducation, vraiment, le bien, le mal, ce qu'on peut faire, ouais. Ce qu'on peut pas faire. Voilà, c'est cette espèce de code un peu classique. Donc, et puis, je suis plutôt sage, ouais, je suis plutôt bonne élève. Il y a trop rien qui dépasse à cet âge-là. Je suis une petite fille assez timide, si tu veux, assez réservée. Voilà, une petite fille un peu sage, ouais.
Donc ça, on rentre, on fait les devoirs, on est première de la classe.
On n'est pas loin, ouais.
Ouais.
Non, mais oui, c'est ça. Et maman le dit encore aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai trois garçons, par exemple. Bon, bah, c'est différent, les garçons dans les études. Moi, maman, elle dit, quand elle voit ses petits-fils, c'est vrai qu'avec ma sœur et moi, elle ne s'est jamais posé la question. Elle ne nous a jamais fait une ligne de devoir ou réciter une leçon. On était sérieuses.
Là, c'est moins le cas avec tes fils.
C'est différent.
C'est différent. OK. Tu te souviens, toi, du premier plat que tu as cuisiné toi-même?
Je pense que probablement je suis venue à la cuisine beaucoup par ces plats mijotés, hein, justement, ces pot-au-feu, ces blanquettes, ouais. Ces bourguignons que ma grand-mère et maman faisaient.
Donc tu aidais,
Ouais, j'aidais. Il y avait vraiment, tu vois, là, on démarre l'hiver, il y avait ce côté, le dimanche matin, c'était le pot-au-feu, c'était un espèce de truc, tu vois, de décembre à février, quasiment tous les dimanches, on lançait un pot-au-feu. Donc j'aimais bien, je me mettais en cuisine avec elle le matin, on mangeait qu'à 14h des fois, mais c'était pas grave, quoi. Il y avait aussi ce truc de partage en cuisine quand t'as des parents qui travaillent beaucoup. Quand t'es relativement autonome, bon bah le week-end c'est aussi la cuisine, c'est aussi le moment de passer du temps avec tes parents, ouais. C'est une activité comme une autre. Et après peut-être que toute seule, le premier plat, je pense que c'est peut-être à l'âge de 12-13 ans. Peut-être un canard à l'orange, un bœuf. Non mais oui, parce que...
Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc beaucoup plus simple.
Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le vendredi... Alors si, les premiers trucs, c'est des petits sablés, tu vois, gamin. Mais là, c'est vraiment, t'as 6-7 ans.
Enfin, le canard à l'orange à 13 ans, faut le faire quand même.
Parce que tu sais, dès 11-12 ans, je sais que je veux faire ça. Donc je bouquine des livres de cuisine chez ma grand-mère. Parce que je suis vachement gardée chez ma grand-mère après l'école, tu vois, elle habite à deux rues de chez nous. Et comme maman travaille jusqu'à 19h, 19h30, vraiment, je passe mes après-midi chez ma grand-mère. Et puis souvent, je reste à dormir le vendredi soir, parce que quand t'es commerçante, tu bosses le samedi, donc comme ça, elle me gérait. Et du coup, je lis ses livres de cuisine, etc. Et comme je vais au marché avec mon grand-père le samedi matin, bah, ça vient un peu comme ça. Tiens, on va acheter un canard. Est-ce que tu veux essayer, Stéphanie? Et j'y suis venue un peu comme ça. Donc, il y avait des petits rituels de faire un peu des plats classiques, mais assez jeunes. Ouais. Je dis pas qu'ils étaient réussis, mais en tout cas, je les tentais.
Mais alors, attends, à 11 ans, tu sais déjà que tu veux faire de cette passion de la cuisine et de l'aide avec
je crois,
ta...
ouais.
Un métier.
Oui, je crois, parce que même s'il n'y a pas de cuisinier dans la famille, j'ai ce truc, bah, puis la gourmandise en fait, c'est-à-dire quand t'aimes manger, t'aimes manger, quand t'aimes ces moments joyeux où on est à 4 heures autour de la table, où tout se passe chez nous, je sais pas, tu vois, ça, c'est vachement lié au cercle familial aussi, c'était des moments où je me sentais bien. Et puis, comme je suis une petite fille un peu timide, un peu... qui a pas très confiance en elle. Tu vois, le seul endroit où je me sens bien, c'est dans une cuisine, à faire des trucs, à essayer, une espèce de lien fusionnel avec la cuisine déjà à cette époque-là. Et donc, ces amis dont je t'ai parlé, qui avaient un restaurant à Enghien-les-Bains, je dois avoir 12 ans, et tu sais, sur des vacances de la Toussaint, ils me proposent de venir une semaine voir un peu comment ça se passe.
Ouais.
C'est une époque où il n'y a pas de stage d'observation, mais ça pourrait être...
C'est l'équivalent du stage de 3e.
Exactement, okay. Ça pourrait être ça. Il me le propose très spontanément. Et là, en fait, là, c'est révélation, parce que je découvre ce qu'est un service, je découvre ce qu'est la sensation d'adrénaline, tu vois, la sensation physique de l'adrénaline,
ouais,
de l'excitation d'un service. Il m'emmène à Rungis, il y a un vrai lien avec les produits. Donc là, ça entérine une espèce de désir que j'ai d'aller vers ça.
Ensuite, il y a les études, donc bac mention très bien. Bon, voilà. Lycée hôtelier, BTS à 19 ans. Major de promo,
ouais.
On est vraiment sur une très bonne élève.
Bah, on est sur une très bonne élève, mais sans, j'ai envie de dire, sans que ce soit une quête, c'est-à-dire que j'aime tellement ce que je fais, je suis tellement dans mon élément à l'école hôtelière, j'aime tellement...
Enfin, le bac mentionne très bien...
Je sais pas,
bravo.
Peut-être déjà une forme de quête d'excellence.
Ouais.
En fait, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire. C'est important pour moi si on prend l'engagement, si on se jette dans quelque chose, et quoi que ce soit dans la vie, des études, du sport, une collection, enfin quoi que ce soit, je pense que si tu le fais, ça c'est des valeurs de vie, il faut bien le faire. Sinon tu le fais pas ou tu fais autre chose. Donc en fait, très tôt j'ai ça en fait. Et ça c'est probablement, ça vient peut-être de l'éducation.
Et alors j'ai lu qu'après ton BTS, t'as une première expérience pas forcément hyper glorieuse dans un resto familial où tu dis qu'il y a une il y a une ambiance
un peu déplorable. Ouais, c'est vrai que ça fait partie. Alors, j'ai eu des stages merveilleux, on en a parlé au Georges V. J'ai eu des stages super dans d'autres petites maisons dans le sud de la France, génial. Et puis après le BTS, je me dis, tiens, j'avais un contrat en poche pour le Georges V, pour attaquer au Georges V. Mais je me dis, je vais faire une saison, tu vois, au lieu de prendre 4 mois de vacances, je dis, je vais faire une saison.
Bah oui, bien sûr.
Pourquoi pas ?
Bah oui, évidemment, normal.
Bah parce que c'était ma vie déjà, tu vois.
Ouais, ouais.
Et là, effectivement, je débarque dans un restaurant, ambiance familiale. Ils bossaient en famille, en tout cas, mais ils ne s'entendaient pas déjà entre eux. Et puis là, grosse remise en question, parce que la cuisine qu'ils font, ce n'est pas mes valeurs, ce n'est pas ce que j'ai appris.
C'est-à-dire
qu'on ne fait pas bien, on ouvre un peu des boîtes, on recycle un peu, au lieu d'enrober les aliments dans du papier film, on recycle des sachets, des trucs. Enfin, je vois des trucs assez lunaires. Qui me choque en fait, et je me sens pas bien dans cette maison là donc je vais quand même faire 3 mois sur les 4 sur lesquels je m'étais engagée, mais grosse remise en question, parce que je me dis, j'avais vu la cuisine à la fois dans sa rigueur et dans sa difficulté, mais là j'en vois un autre versant qui me plaît pas trop, et en même temps ils me font vachement douter, c'est-à-dire qu'une espèce de pression psychologique à ce moment-là où t'as l'impression que c'est toi qui es dans le faux et que c'est eux qui sont dans le vrai, enfin c'est très bizarre. Mais je suis jeune, hein, j'ai 18 ans, tu vois, je suis gamine encore. Et à ce moment-là, je me suis posé la question.
D'arrêter ?
D'arrêter. J'aurais pu arrêter à ce moment-là, parce que vraiment, ils m'ont fait douter et c'était profond.
Ils sont devenus quoi, eux ?
Je sais pas. Puis je veux pas trop savoir.
Ouais, okay.
mais du coup, j'avais un contrat au Georges V qui démarrait un mois après. Non, je pense pas. Et mes parents m'ont dit, écoute, t'as un contrat pour aller au Four Seasons,
tu vas pas passer à côté.
Bah vas-y quand même. Et puis ça va pas, effectivement, tu remettras en question tes 5 ans d'études. Mais enfin, Georges, des révélations. Enfin, c'est génial.
Donc là, du coup, le Georges V, 80 cuisiniers, 2 filles. Comment on débarque dans un univers qui est quand même ultra masculin et comment on se fait sa place ?
J'ai jamais été trop dérangée d'évoluer dans un univers un peu masculin. Enfin, moi, j'arrive à trouver ma place dans un peu tous les univers. J'ai ce côté un peu caméléon. Ouais, je m'adapte. Et puis moi, je fonctionne au feeling de la personnalité. Enfin, les filles, les garçons, ça, c'est pas trop mon sujet.
Mais eux auraient pu, en revanche, avoir un...
Oui, alors je dis pas qu'il n'y a pas eu, mais un petit peu. Mais c'est-à-dire que comme... Moi, je me suis développée une carapace un peu au fil des années. Je me suis vachement protégée, déjà quand j'étais un peu enfant, parce que timide, parce qu'un peu ronde, j'ai subi un peu de moqueries, etc. Donc, je m'étais un peu enfermée déjà dans une bulle. Je m'étais fabriquée une carapace pour me protéger. Je l'ai endurcie, cette carapace, pour dire, en fait, non, moi, je sais ce que je veux dans la vie. Donc, en fait, globalement, personne va m'empêcher de le faire. Donc, voilà, après, c'est l'histoire de caractère.
Ouais, et t'en as.
Je crois que j'en ai un peu.
Mais à ce moment-là, tu as 19 ans, tu débarques donc dans ce resto, dans un palace, avec le luxe qui l'accompagne. Comment tu... Est-ce que tu es impressionné ? Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans ce milieu-là, toi qui viens de Enghien, dans une famille modeste ?
Évidemment, il y a le choc des cultures, il y a le choc du palace, parce que d'un seul coup, ça brille, c'est doré, c'est beau. Le Georges V, à cette époque-là, c'est la réouverture, c'est l'événement, c'est le plus bel hôtel du monde, c'est élu plusieurs années d'affilée plus bel hôtel du monde, c'est la quête de 3 étoiles en 4 ans, c'est un chef meilleurier de France, moi j'en avais jamais vu, je les voyais dans les magazines, ça me faisait rêver, mais la première fois que je croise Philippe Lejeune dans les couloirs, je suis tétanisée, j'ai les poils qui se hérissent, c'est une star de cinéma pour moi. Donc c'est la rencontre avec un univers qui n'est pas le mien, mais qui va me fasciner, c'est-à-dire que c'est tellement pas mon univers et mon registre que je suis quelqu'un de très curieux, que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre, et surtout j'ai envie de me frotter à cette quête d'excellence, à cette remise en question perpétuelle, à ce développement personnel, cette exigence bien sûr, cette rigueur aussi, parce que il y a une discipline évidemment quand tu gères ce type d'établissement et qu'il y a 80 personnes en cuisine, c'est très hiérarchisé, mais en même temps ça me va bien à ce moment-là de ma vie, c'est ce que j'ai envie.
C'est dans ce palace que tu vas rencontrer l'homme de ta vie.
Ouais, on peut le dire. Oui, j'ai rencontré
David.
Ouais, j'ai rencontré David là-bas, donc moi je rentre.
Tu te souviens de la rencontre ?
Commis.
Ah oui.
Bah, je me souviens de la rencontre parce qu'évidemment on était d'abord copains, enfin on était d'abord collègues, hein.
Okay.
On n'était pas, on n'a pas tout de suite été ensemble, mais je me souviens bien sûr de la rencontre. Il était premier chef de partie, il allait passer junior sous chef, moi je rentrais commis. Et il faisait partie des gens très bienveillants de cette cuisine. Parce que David, c'est probablement la personne la plus gentille que je connaisse, au-delà du fait qu'il y a en toute objectivité. C'est vraiment non, quelqu'un qui est en toute objectivité.
Moi, je l'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi. Et effectivement, il respire la gentillesse.
Voilà, c'est ça. Il y a une bonhomie chez David, une espèce de pureté. Donc déjà, dans ce milieu qui est difficile, dans cette rigueur, il faisait preuve de beaucoup de bienveillance, pas qu'avec moi, mais globalement avec les gens. Donc déjà, je suis vachement touchée par la personne. Donc du coup, on devient assez proche, parce que dans ces brigades-là, avec la pression que tu as, que tu sois commis, chef de partie ou sous-chef, c'est-à-dire qu'il y a quand même vachement de moments où tu finis les services et puis tu vas boire un verre. Tu vois, parce que tu as besoin de décompresser. Tu peux pas rentrer, prendre une douche et te coucher. Tu es obligé d'aller vivre un truc un peu.
Qui fait redescendre.
Et puis, tu as besoin de le faire ensemble, si tu veux, en équipe, parce que tout le monde vit la même chose, tu vois. Donc, David, ça se fait un petit peu comme ça. Et puis, petit à petit,
lui
il avait déjà une idée très précise. Donc,
D'accord, ok.
Je l'ai pas vu venir tout de suite, mais, mais il a eu gain de cause, ouais.
Et là, ça fait combien de temps que vous êtes mariés ou ensemble ?
On est ensemble depuis 2002 et on est mariés depuis 2003. Donc, on s'est mariés très vite. Et on est en 2025, donc 22 ans de mariage.
Ce qui est beau, c'est qu'après 22 ans de mariage, eh bien, David peut encore te dire des choses comme ça.
Bravo.
Coup mon cœur, je fais un petit message vidéo pour te dire que chaque moment passé auprès de toi est comme un film romantique. Tu es l'actrice principale de ma vie. Et oui, je t'aime plus que ça. Je t'embrasse, bisous et à ce soir. Je t'aime mon amour.
C'est beau quand même.
C'est beau que vous ayez réussi, parce que David, c'est un grand timide.
Ouais.
David, il ne se livre pas beaucoup comme ça. Il sait qu'il est content de jamais trop prendre la lumière, etc. Donc c'est vrai que ça me touche beaucoup que vous ayez réussi à... Voilà, parce que c'est évidemment, dans l'intimité, c'est quelqu'un qui n'est pas avare de ce type de mots, mais c'est rare qu'il ait une prise de parole
l'exprime comme
publique.
Ça. Ah, c'est beau, moi, je trouve, après tant d'années de mariage, c'est aussi le modèle de tes parents, cet amour.
J'ai un modèle différent, mais mes parents sont encore bien évidemment ensemble, mais c'est pas une histoire de modèle, là, c'est une histoire d'évidence avec David. Je pense que quand t'as trouvé la personne qui te comprend le mieux, qui est à la fois ton mari, ton meilleur ami, le père de tes enfants, aujourd'hui on travaille ensemble. De nouveau, donc en fait c'est la personne la plus importante de ma vie, parce qu'aussi c'est le plus complémentaire, c'est celui moi je suis très tu l'as dit, j'ai un caractère qui est pas toujours facile d'ailleurs.
J'avais pas dit ça.
Non, tu t'as dit que t'as du caractère. Mais je l'assume, hein. Mais si tu veux, il faut trouver la personne qui justement est parfaitement compatible avec ça, et l'inverse est vrai aussi.
Quel jour, merci d'avoir accepté de se prêter à ce petit message. Je sais que c'était pas évident pour lui.
Ah, il déteste faire ça.
Ouais, mais
il déteste.
Ouais, mais je pense qu'il déteste moins qu'il ne t'aime.
Ah, mais c'est sûr. Donc, mais je sais qu'il ferait n'importe quoi. Mais d'ailleurs, franchement, c'est une belle preuve d'amour, parce que il déteste les caméras, il déteste la mise en lumière, il déteste parler en public. Il est très pudique, David.
C'est à cette époque aussi, en tout cas, au Georges V, pour revenir à cette rencontre, que tu, quelques mois après, évidemment, que tu vas avoir ton premier enfant, deuxième enfant 17 mois plus tard, et que tu mets une parenthèse à ta carrière à ce moment-là.
Oui, parce
t'arrêtes
que...
de bosser.
Bah oui, parce que comme toutes les femmes, à un moment, on se pose la question de la construction de vie de famille, et à ce moment-là, c'est assez évident, David, il vient de prendre un poste de sous-chef dans le sud, à Terre Blanche. Et à ce moment-là, c'est assez évident que c'est moi qui vais devoir m'occuper des enfants. On ne se pose même pas la question. En plus, j'en ai envie. Enfin, je veux dire, j'ai cet instinct maternel. Ouais. J'ai toujours voulu avoir des enfants très jeunes. Bon, j'ai rencontré David très jeune. Voilà, tout a été très fluide. On n'a jamais trop rien programmé. C'est arrivé un petit peu comme on en a eu envie. Et c'est très bien comme ça. Et du coup, j'ai eu envie de m'occuper de mes enfants, parce qu'en plus, pas de place en crèche, pas de nounou. Donc, de toute façon, pendant 18 mois, il faut faire un peu différemment. Et c'était une belle période, c'était chouette. Mais à un moment, je me suis dit, est-ce que je vais être capable de reprendre la cuisine, parce que c'est une organisation, parce qu'il va falloir trouver un rythme, etc. Et là, si ce n'est pas un partenaire de vie comme David, je pense que... C'est vrai que souvent, j'ai ce message envers les femmes de dire qu'il faut un sacré partenaire de vie pour arriver à concilier les deux, mais c'est faisable. Mais c'est vrai que David, il a joué son rôle de père tout de suite, et on s'est organisé, on a organisé la vie de famille autour de notre métier qui était aussi notre passion. Donc de toute façon...
Tu ne te voyais pas arrêter pour élever tes enfants?
Je ne me voyais pas, mais j'aurais pu quand même. J'avais commencé à regarder pour être, comme j'avais un BTS, pour être prof de cuisine. Donc j'avais commencé à regarder au lycée hôtelier de Nice, il y avait un poste. Je me suis posé la question. J'avais fait un peu de cause contrôlée d'achat aussi, donc ça m'intéressait aussi. Enfin, ce n'était pas une passion, mais je veux dire, il y avait du lien avec la cuisine. Donc c'est des options que j'ai étudiées. Et puis finalement... Il y a une partie de destin, je pense, dans tout ça. Donc je suis restée en cuisine.
C'est ce qui nous a permis de découvrir Stéphanie Lekelec dans Top Chef en 2011. On t'a proposé l'émission. T'as pas tout de suite accepté?
Non, parce que ce casting, c'est mon beau-père, le père de David, qui m'y a inscrite sur un peu un pari familial. Parce qu'ils étaient en plein casting. Il me dit, je suis sûre que si tu vas, tu gagnes. Moi, je faisais beaucoup de concours à l'époque. Mais je me projetais pas en Top Chef, j'avais regardé la saison 1 comme tout le monde. Mais...
Ah, parce que c'est la deuxième saison que tu fais, donc on n'est pas encore sur le.
Non,
le...
c'est pas l'aura que ça a aujourd'hui, évidemment. C'est une nouvelle émission. Quand t'es cuisinier, j'ai regardé la première saison. Quand t'es dans ton canapé, c'est toujours très facile de dire j'aurais fait mieux. Donc je sais pas, je me projetais pas dedans.
Et puis le monde de la cuisine, globalement, regarde cette émission pas avec la même...
À cette époque-là, regarde d'un coin de l'œil en disant...
En se disant qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder.
Tiens, c'est une télé-réalité, c'est ça. Le métier, etc. C'est pas un concours, en tout cas. Donc bon, je me projette pas trop dedans, et puis quand même, mon beau-père m'inscrit, donc après je me prends au jeu, je suis appelée, je me dis je vais être tranquille, ils vont pas m'appeler, puis ils m'appellent en fait. Ils font bien leur travail, le casting M6, donc ils m'appellent, et puis après moi je suis très joueuse en fait. Je me prends au jeu, je dis tiens, je passe une étape, puis t'en passes une autre, et puis t'en passes une autre, jusqu'au moment où ils t'appellent et ils te disent t'es dans les 14, on tourne dans 15 jours. Je dis oui, mais moi là, il va falloir me laisser 48 heures parce que je suis même pas sûre d'avoir envie de le faire en fait. Donc là j'appelle mon chef mentor de l'époque, Philippe Jourdain, qui venait de quitter Terre Blanche et dont je prenais la succession, et je lui dis chef, voilà, je suis embêtée parce que il y a ça, je sais pas quoi faire. Et il me dit écoute Steph, franchement la télé c'est un média fort, ça va te faire gagner 10 ans sur ta carrière, ça va être une mise en lumière formidable sur tes capacités, ce que tu sais faire, j'ai confiance en toi, tu vas gagner, vas-y, fais-le et fais-le bien quoi.
Ouais. Donc tu y vas?
Oui, parce que je suis très, comment dire, je suis, encore une fois, j'ai des codes, j'ai vachement le respect de la hiérarchie, j'ai ce côté, Philippe c'est un mentor pour moi, moi mon chef il me dit va au front, j'y vais en fait, j'ai ce côté très bon élève, bon soldat à cet âge-là.
Et jusqu'au bout, puisque non seulement tu y vas, mais tu gagnes cette saison 2, là quand tu fermes les yeux, quelle est la première image qui te revient de cette saison?
Il y en a plein parce que c'est une aventure formidable, Top Chef, et c'est pas un hasard si aujourd'hui j'ai eu plaisir à y revenir. C'est que, et ça me fait plaisir quand, d'avoir été à la place des candidats et aujourd'hui de pouvoir m'adresser à eux, dire vous allez voir, vous allez vivre une aventure formidable. Et quand à la fin de la saison, ils me disent chef, vous avez raison, tout est tellement fort, tout va tellement vite, etc. Non, quand je ferme les yeux, j'ai les images de. D'abord des camarades que je me suis fait, enfin des gens avec qui j'ai gardé des liens.
Des candidats de cette saison que
oui,
tu...
Oui, il y en a quelques-uns. La rencontre avec Jean-François Piège qui a été déterminante pour la suite. Et puis c'est un espèce d'ascenseur émotionnel. C'est tout en accéléré, Top Chef, c'est-à-dire que t'es mis dans des conditions extrêmes en permanence. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les autres concours de cuisine. Et j'en ai eu fait. Et ça ne veut pas dire qu'il est mieux ou moins bien. Ça veut juste dire qu'il est différent et que ça fait appel à d'autres capacités, d'autres compétences. Il suffit pas d'être juste bon cuisinier ou bon technicien, non, il va falloir aller chercher un peu au profond de toi ce que tu as raconté. Ça te demande des capacités d'adaptation assez hors normes, en fait. Donc, quelque part, j'ai toujours Top Chef, c'est une ligne sur mon CV comme les autres maisons parce que ça m'a appris à me débrouiller, à rebondir tout le temps, à quoi qu'il arrive, devoir envoyer en place. C'est-à-dire que je suis rentrée de Top Chef en me disant mais il n'y a plus jamais rien de grave dans un service parce qu'on peut arriver à rebondir toujours sur tout, en fait. Donc ça a été très formateur. Et puis, je disais, la rencontre avec Jean-François a été une espèce d'électrochoc pour moi.
Pourquoi?
Parce que, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un de très discipliné, très, très sage, très... loyal. Donc je faisais moi quand j'étais sous-chef de Philippe Jourdain, avec qui on a eu 2 étoiles à Terre Blanche, j'étais son bras droit et on a obtenu 2 étoiles quand j'étais son bras droit. Mais si tu veux, je faisais la cuisine du chef. Je me suis même pas posé la question à 28 ans si j'avais une identité, si j'avais une cuisine, si voilà, j'étais très technique. Je suis toujours amoureuse du beau geste, de la technique, etc. Mais Mais voilà, moi j'étais le soldat, le bras armé de Philippe et c'était important pour moi. Et donc je suis arrivée dans Top Chef, je ne m'étais pas posé la question si j'avais un propos culinaire. Et là, Jean-François, à force d'épreuves, je crois qu'on est aux portes de la demi-finale et puis je fais ce qu'on appelle aujourd'hui le défi éliminatoire, c'est-à-dire que je suis en face à face avec un candidat et potentiellement je peux sortir et je fais un plat. Et là, Jean-François me dit c'est parfait. Le plat, il est juste parfait. Il est bien réalisé, c'est technique, c'est, voilà, c'est magnifique, c'est super. C'est ce que tu nous as fait pendant tout le concours. En fait, c'est presque scolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalité, on ne s'est pas quitté. Et là, j'ai eu le déclic, j'ai dit, mais en fait, il a raison. C'est-à-dire que je reproduis, je fais une cuisine qui est technique, qui est bien faite, il n'y a rien qui dépasse. Mais est-ce qu'elle est capable de procurer de l'émotion? Parce qu'en fin de compte, elle ne raconte rien de moi. Et là, ça a été le début de la prise de conscience de ce qu'est une identité. De ce que peut être une identité, et donc le début de la quête de mon identité.
Alors, il y a eu aussi 100 000 euros à la clé de ce concours, puisque à l'époque, on gagnait 100 000 euros.
À l'époque, on gagnait 100 000 euros.
Et c'était pas en fonction des pourcentages de vote sur la finale. T'as fait quoi avec ces 100 000 euros?
Je les ai mis de côté.
Ah.
Je les ai mis de côté, et on a continué de travailler de manière normale.
Là encore, très sage.
Oui, très sage, parce
que... On flambe pas.
Non, puis on pète pas les plombs. Et puis c'est vrai, et ça, je le dis encore aux jeunes qui sortent de Top Chef aujourd'hui, c'est-à-dire que des propositions au sortir de Top Chef, t'en as pour de l'argent facile, pour faire plein de trucs. Mais j'avais toujours en tête ce rêve ultime de quête d'étoiles, hein, clairement, d'identité, de devenir peut-être un jour un chef voilà, qui compte. Et du coup, bah non, j'ai dit non à plein de choses, bien rémunérées, parce que c'est pas cohérent. Si tu veux, c'était pas cohérent dans la construction globale à moyen et long terme. Je suis jamais quelqu'un qui a raisonné à court terme. Donc ces 100 000 euros, on les a mis de côté. Ils ont servi plus tard à faire un apport pour un appartement. Et puis après, je les ai récupérés. Et puis après, ça a servi pour l'apport du restaurant.
Alors justement, donc en 2013, tu deviens chef du restaurant La Seine. Alors à l'époque, La Seine, c'est dans l'hôtel Prince de Galles, donc avenue Georges V. Et l'année suivante, première étoile, Michelin. Est-ce que tu te souviens de...
Oui.
On t'appelle, on fait... C'est quoi? C'est bonjour, bon, on vous a mis une étoile.
Tu le découvres, une étoile, il n'y avait pas de cérémonie de Michelin à cette époque-là. Tu le découvrais dans le communiqué de presse voilà, du lundi matin, mais tu avais eu un petit coup de fil le vendredi soir généralement.
Et donc, toi, j'imagine que c'est aussi...
Non, ta première étoile, c'est forcément énorme, parce que tu as eu beau travailler. Voilà, moi, je travaille avec Philippe Legendre et Philippe Jourdain, 3 et 2 étoiles. J'ai vécu la prise de la 3e étoile au Georges V. J'ai vécu la prise de la 2e étoile à Terre-Blanche.
Et là, ça t'arrive à toi.
Mais c'est pas... Voilà, tu sais que tu as mis une pierre à l'édifice, mais c'est pas la tienne. Au Prince de Galles, d'un seul coup, c'est la tienne, mais c'est celle que tu partages avec tes équipes en tant que meneur, en tant que leader, tu vois, c'est-à-dire tu as construit une équipe et tous ensemble on est allé à l'objectif parce que c'en était un. Et effectivement, c'est quelques mois après l'ouverture, donc bah, ça c'est gravé à jamais. C'est chouette, mais si tu veux, tu te dis tout de suite, moi je suis jamais quelqu'un qui me satisfait, donc tu te dis tout de suite, maintenant va falloir la garder, va falloir être encore meilleur parce que faut continuer d'essayer d'avancer pour pas reculer, quoi.
5 ans plus tard, 2e étoile, donc en 2019 cette fois-ci, t'obtiens une 2e étoile. Et là, le resto ferme. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense qu'on est arrivé au bout d'une histoire. Le Prince de Galles, j'y ai fait 7 ans. J'ai adoré cette maison parce que j'ai fait partie de la réflexion de la reconstruction. Donc, je suis arrivée un an avant. J'ai pensé le concept, enfin les concepts, parce que j'étais chef de tout l'hôtel. C'était une ouverture. C'était extraordinaire. Ça a été vraiment, à 30 ans, devenir chef d'une telle maison, c'était formidable. C'était un vrai projet de vie qui a duré 7 ans. Mais on est arrivé un peu au bout de l'histoire parce que il y a eu des changements de direction entre-temps, de directeur général, et puis probablement de stratégie, parce qu'avec chaque directeur général, il y a une stratégie un peu qui arrive. Donc il y avait une volonté de ce directeur de changer un peu la vision de la gastronomie de cette maison, et de plus forcément avoir de maison étoilée. Donc forcément, je ne peux plus m'inscrire dans un projet comme ça, parce qu'il y a toute une équipe qui s'est donnée, qui a bâti, qui a construit une identité, qui a construit une maison, une clientèle, un restaurant qui s'appelle La Seine, avec cette cuisine ouverte, avec ce qu'on racontait à cette époque de désacraliser la gastronomie de palace, etc. Et puis d'un seul coup, on te dit, non, ça, on n'en veut plus. Donc, c'est pas grave, tu vas pas vouloir rester à tout prix. Moi, je respecte aussi. Et quelque part, moi, je fais partie des gens qui pensent que dans la vie, les coups durs sont aussi des opportunités. Doivent être considérés comme des opportunités. Et avec le recul, je me dis, quelle opportunité.
Eh oui, puisqu'en l'occurrence, donc ça ferme. Et alors là, tu fais quelque chose d'assez étonnant, c'est que tu reprends le nom, enfin, tu gardes le nom, en fait, de ce que tu avais aussi créé.
Bah, c'est ça.
Presque, tu le déménages la scène.
C'est un peu ça, l'idée, parce que, et là-dessus, ça s'est fait de manière très naturelle, puisque j'avais la maternité du concept, du nom, de la construction, de l'identité, de la clientèle qu'on avait faite, etc., etc. Donc, et puis, eux ne gardaient pas le restaurant de toute façon. Donc, je veux dire, voilà, je suis partie avec... C'était compliqué pour moi. On ne peut pas raconter pendant 7 ans une histoire et puis d'un seul coup se dire, bah non, ce que je vous ai raconté pendant 7 ans, ce n'est pas vraiment ça. Je vais vous en raconter une nouvelle.
Bien sûr.
Enfin, en tout cas, à ce moment-là, je ne dis pas que je le ferai jamais, mais à ce moment-là, j'avais besoin d'une forme de continuité parce qu'en plus, elles étaient fragiles, ces deux étoiles. Elles venaient d'arriver, donc elles n'étaient pas légitimes. Enfin, pour moi, c'était compliqué. Il fallait prouver qu'on allait être capable de les garder. Donc, je n'avais pas envie de faire... page blanche, parce que ça avait été le fruit de plusieurs années de travail, de réflexion. Et puis, la cuisine que j'avais mise en place là-bas, c'est celle que j'avais envie de faire à cette époque-là aussi. Donc
tu rouvres la scène par Stéphanie Le Callec, cette fois-ci.
Ouais, Avenue Matignon.
Avenue Matignon. Et alors là, quelques jours après l'ouverture, il se passe un truc un peu à moitié dramatique, à moitié incroyable. C'est que à un moment, tu dois faire évacuer la salle.
Ah, non, comment tu sais ça?
Je travaille. Tu fais évacuer la salle, quoi, parce qu'en fait, il y a une alerte incendie.
En fait, il y a une espèce d'odeur de gaz, donc on est au rez-de-chaussée d'un immeuble, et il y a une espèce de fin de service, doit être 14h, je commence un tour de salle, et quand je reviens dans la cuisine, il y a une espèce d'odeur de gaz. Donc là, évidemment, tu ne joues pas.
Oui.
Tu appelles tout de suite les pompiers qui disent qu'il faut faire évacuer. Là, mon directeur de salle, il dit, mais chef, les gens n'ont pas pris les serres. Oui, mais enfin, il faut faire évacuer. En fait, les gens... Donc là, on fait évacuer. Mais c'est délicat parce que les gens viennent vivre un moment. Alors, on n'avait pas 2 étoiles parce qu'on ne les avait pas récupérées, mais ils viennent quand même pour vivre une expérience gastronomique. Le bistrot était plein, c'était plein en haut, plein en bas. Et puis là, il faut dire à une cinquantaine de clients, il faut aller dehors, quoi.
Ouais.
Donc, on encaissait les gens dehors. Je faisais 50% sur les additions. J'étais en train de signer des livres dehors pour m'excuser. C'est pas moi. Il fallait protéger avant tout les populations. Mais voilà. Et au final, rien du tout. C'était... Un commerçant à côté qui décapait son marbre, qui avait balancé des solvants dans les canalisations, et ça avait embaumé tout l'immeuble. Voilà, dans plus de peur que de mal. Mais c'est vrai que c'est comment tu gères des situations un peu dans l'urgence, avec toujours ce souci de faut que le client reparte content, quoi, et ait envie de revenir. Donc voilà, on a essayé de gérer au mieux.
Bon, les clients sont revenus, les étoiles aussi.
Oui.
Puisque c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, tu ouvres finalement ce restaurant et tout de suite, tu obtiens les 2 étoiles directement, sans passer par le palier de la première étoile. Ça aussi, j'imagine, ça doit être assez incroyable.
Bah, je dois dire que merci au guide Michelin de jouer le jeu et de faire confiance. Parce que, alors évidemment, hein, je n'ai pas les tenants et aboutissants, mais il y a eu quelques passages, des passages accélérés, parce qu'on ouvre en octobre et effectivement, ça sortait en janvier.
Ouais.
Donc, je pense qu'ils ont dû faire beaucoup de tables sur une période de 2 mois. Mais en tout cas, ils ont joué le jeu de revenir très vite, d'être quelque part un peu en support d'un restaurateur, d'un jeune restaurateur qui essaye de s'installer. Donc c'est chouette, toi, de m'avoir fait confiance.
Il y a des plats dans les étoilés dont tu vas te souvenir pendant des années qui vont te hanter. Moi, je pense notamment à...
je te l'ai dit l'autre jour.
Voilà, exactement. Donc c'est quoi exactement ce plat? C'est une sorte de
c'est un plat que j'ai créé en 2015, qui a beaucoup évolué, notamment sur les 2 dernières années. Mais...
Ça ressemble à ça, les amis.
Globalement, c'est l'idée d'un pain perdu très régressif qui est imbibé avec un espèce de sabayon au jus de coquillage surmonté d'un caviar cristal avec des gros grains qui roulent.
Rien que d'en reparler, m'émeut, ça me met l'eau à la bouche. Ah non, mais vraiment.
On rajoute un peu de gourmandise avec de la crème crue, on rafraîchit avec un petit peu d'oseille ciselée très finement. Et puis voilà. Et puis, oui, ça fait partie des plats un peu iconiques de la scène que je ne peux plus enlever. Que maintenant, ça y est, j'ai dépassé le stade de vouloir l'enlever d'ailleurs parce qu'il fait tellement plaisir aux clients que voilà, c'est important aussi d'avoir des repères. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça signe une maison. Il y a des plats qui sont verrouillés à des maisons et ça fait du bien aussi d'aller chercher ces plats-là. Et tu vois, le livre est titré « Le goût de la mémoire » parce que c'est ça, c'est mon identité culinaire aussi. Tu sais, tu te poses souvent « qu'est-ce que je vais inventer ? Qu'est-ce que je vais réinventer ? Qu'est-ce que je vais laisser dans la gastronomie ?» Moi, je vis bien avec l'idée de pas être la plus créative, la plus révolutionnaire dans les techniques, dans les trucs, etc. Mais par contre, d'essayer de faire vivre un truc un peu, tu sais, cette histoire Je sais pas si t'as cette scène de ratatouille, mais la ratatouille, justement, le critique culinaire à la fin, tu vois. Moi, ce qui me plaît, c'est quand un client me dit, quand il mange une salade de haricots verts 2 étoiles, par exemple, ce qui a été le cas sur le début de l'été, et qu'ils me disent, mais vous savez quoi? J'ai jamais mangé une salade de haricots verts comme ça, et en même temps, ça me rappelle tellement les haricots verts du jardin, chez ma grand-mère, etc. Parce que d'un seul coup, tu crées une nouvelle émotion, mais en lui faisant revivre une émotion. Et en fait, ça n'est que ça pour moi, la cuisine aujourd'hui.
Après la scène, tu as ouvert d'autres établissements. Donc, il y a Vive et il y a MAM. En quelques mots, Vive, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on est autour des produits de la mer.
C'est ma table marine.
Avec David, ton mari. Voilà.
C'est lui qui est là-bas au quotidien. Mm-hmm. Donc moi j'y passe, mais c'est vrai que comme je suis à la scène, je n'ai pas le don d'ubiquité, donc c'est vrai que je passe chez lui faire un coucou, mais j'y suis pas tous les jours, c'est vrai, c'est lui vraiment qui l'apporte. Et c'est une cuisine marine joyeuse, dans l'esprit du partage, un peu colorée, avec des produits de saison évidemment, parce que le sourcing de saison, il est aussi sur les produits de la mer, etc. Donc voilà, c'est une table un peu sympathique.
Et MAM ?
MAM, c'est une maison de cuisine dédiée à la cuisine de maison, donc c'est une version un peu moderne du traiteur, pâtissier, charcutier, épicerie fine qu'on a pu connaître un peu dans notre enfance. C'est un peu tout ça dans une version à emporter. Ou sur place dans les 2 nouvelles adresses où effectivement tu peux goûter ma version de la blanquette de veau twistée au café, tu peux goûter mon Paris-Brest
à des prix d'ailleurs plus accessibles.
Tu as raison de le souligner, c'est-à-dire que c'est important pour moi que la cuisine elle soit pas clivante, si tu veux, qu'elle soit pas élitiste. Donc effectivement on peut faire du 2 étoiles, mais on peut faire un restaurant plus simple comme Vive, et on peut faire du produit de tous les jours comme MAM. Alors je te dis pas forcément que non plus ça coûte 3 euros, parce que c'est pas le cas quand tu fais des bons produits, mais tu as effectivement ton petit sablé, t'as des choses à 1,50€ comme le petit sablé, et puis t'as des choses plus chères comme un merveilleux filet de veau en croûte Wellington qu'on fait sur commande ou à partager pour 6-8 personnes. Enfin ça va, il y a tout en fait, il y en a pour tout. Petit déjeuner, dîner, déjeuner, lunch du midi vite fait au bureau dans une petite box, ou plat un peu plus sophistiqué à réchauffer. On a essayé de penser une offre assez large et puis qui parle à tout le monde, mais toujours en gardant, et ça c'est le trait d'union dans les 3 maisons, ma philosophie de cuisine, qui est effectivement le partage, la gourmandise, la profondeur des goûts, le sourcing.
Je te propose, et vous le savez, on a l'habitude maintenant dans ce foodcast de tester un peu les connaissances de notre invité sur ses propres produits.
D'accord.
Donc, on va essayer, enfin tu vas essayer de retrouver parmi 3 produits quel est le produit de MAM. Je pense que ça va être assez évident.
Je vais y arriver quand même, parce que tu sais que je fais mes cartes quand même.
Mais alors pour ça, tu vas devoir. Oui, parce que sinon, à l'œil, je pense que tu peux le reconnaître immédiatement.
Okay.
Mais justement, l'idée, c'est que tu le reconnaisses que au goût. Donc je t'en prie, mets ce petit masque.
Goûter. Très bien.
Et on va chercher, je peux t'annoncer le produit, on va chercher tout de suite les quiches Lorraine. On a donc devant nous 3 quiches Lorraine, emblème de la gastronomie française, s'il en est. Il y en a une donc qui est signée MAM, l'autre est signée d'une boulangerie, donc c'est quand même une quiche de boulanger. Et enfin, le dernier, c'est Carrefour.
Ah bah attends, on n'est pas à l'abri qu'il fasse bien. Hein.
Je te fais une toute petite part. Hein. Et voilà. Donc là, tu as, regarde, hop, le manche de la fourchette. Et au bout de la fourchette,
attends,
il y a...
le micro là, non?
Ouais, c'est hop bon, là, voilà.
Alors... j'espère que c'est pas chez moi.
Ah. C'est quoi qui te déplaît là?
Écoute, on a une pâte qui est un peu épaisse, qui est un peu molle.
Ouais.
Il n'y a pas une grande générosité dans la garniture. J'espère que c'est pas chez moi. Je ne pense pas.
Deuxième quiche. Hop.
Une pâte fine, bien croustillante, dorée. Garniture un peu généreuse, un appareil plutôt souple. Ça pourrait ressembler à chez moi.
Et voilà la dernière. Est-ce que Stéphanie va retrouver sa quiche Lorraine parmi les 3 ici présentes?
Je pense qu'on est la 2.
Eh bien, je te propose de te démasquer. Et effectivement, la 2, c'est celle-ci. Et c'est bien ta quiche Lorraine, incollable.
C'est normal de connaître ce que tu vends quand même. Et non, je suis rassurée que c'est du bon travail des équipes.
Elle est bonne?
Ouais, elle est bonne, elle est très bonne. Bravo aux équipes.
Donc, ça c'était une quiche de chez MAM. Il y a Vive, il y a la scène, il y a des livres, il y a la télé. Ton but c'est quoi? C'est de créer un empire à la Ducasse? C'est de devenir une icône de la gastronomie française?
Non, non, il n'y a pas assez. Alors d'abord, voilà, d'abord avant d'être Alain Ducasse, enfin, voilà, je me considère pas du tout à ce niveau. C'est pas du tout le. Puis c'est pas forcément l'envie, si tu veux. L'envie, c'est d'être. Alors de jamais stagner, ça c'est une certitude, parce que je suis quelqu'un qui déteste quand c'est pas en mouvement. Moi, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de nouveaux challenges, j'ai besoin qu'il se passe toujours un truc. Maintenant. Bah, quand on a tout ça, faut stabiliser aussi, c'est important, parce que moi, ce qui me rend très fière aujourd'hui, c'est que ces trois maisons dont tu parles, on les a fait tout seuls. Quand je dis on, c'est David et moi, avec nos sous, avec nos économies, avec l'hypothèque de nos maisons, sans aller chercher de partenaires financiers.
Pas d'investisseurs.
Pas d'investisseurs, enfin, partenaires financiers bancaires, évidemment, mais pas d'investisseurs. Donc, on est 100% chez nous, ça, c'est une grande fierté, si tu veux, aujourd'hui. Mais c'est aussi des grandes responsabilités, c'est aussi cette notion de stabiliser, d'aller step by step maintenant. Voilà, et puis de comme je te dis, moi j'ai envie d'être présente dans mes maisons, de continuer à connaître le goût de la quiche concert, de continuer à saluer mes clients à la scène, de, tu vois, dimanche on fait un brunch chez Vive, d'être là, d'inviter, de continuer d'inviter des gens à s'amuser sur des quatre mains, etc. Pour ça, il y a un moment, tu peux pas non plus te démultiplier. Donc, en tout cas, pas à ce stade-là. Tu vois, là, j'ai envie de stabiliser tout ça et de continuer à essayer de faire bien ce qu'on fait.
Emploi du temps surchargé, je le disais, entre ces trois établissements, il y a aussi les tournages de Top Chef, puisque depuis 2024, tu es désormais coach, jury, coach de Top Chef. Comment ça s'est passé, ce retour à Top Chef?
Super bien.
Mais c'est eux qui t'ont contacté, ouais, qui t'ont dit que ça serait une belle histoire.
Oui, okay. pour la saison 15, qui était une saison anniversaire, ils m'ont contacté. C'était le moment, ça faisait un petit moment qu'on discutait, qu'on regardait, qu'on... Voilà, et c'était pas le moment avant, ni pour eux, ni pour moi, je pense. Et là, il y avait une forme d'évidence sur cette saison 15, d'essayer en tout cas. Et puis ça s'est bien passé, donc depuis, j'y suis retournée.
Ouais.
Voilà, c'est là où on est en train de tourner la troisième saison.
Qui sera diffusée dans quelques mois.
Qui sera diffusée, voilà, on dira. Comme d'habitude.
Du coup, tu connais la position du candidat, tu connais la position du coach. Toi, aujourd'hui, quand tu vois des candidats arriver et que tu te revois à l'époque, est-ce qu'il y a des choses qui te... par exemple, un truc qui t'insupporte chez les candidats?
Non, il n'y a rien qui m'insupporte, parce que tu sais, c'est très compliqué de juger. Et puis d'ailleurs, on n'est pas là pour juger forcément la personnalité. Puis c'est des jeunes qui viennent, pour le coup, avec l'envie de se challenger, puis avec l'envie de se nourrir, en fait. Ils ont conscience que ça va être une espèce de formation accélérée. Quand je dis formation, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas d'échange accéléré avec les chefs... avec
c'est
les
intense.
Chefs invités, c'est très intense. Donc en fait, ils viennent souvent aussi pour grandir. Hein. Donc, il n'y a rien qui
m'agace
chez eux.
Alors à l'inverse, quelque chose qui touche tout de suite chez un candidat ou une candidate?
Quelque chose qui me touche tout de suite, c'est celui ou celle qui vient vraiment pour essayer de trouver son propos culinaire. C'est ceux dont on sent que la cuisine, c'est toute leur vie. Moi, je suis toujours touchée par les gens qui ont des passions et qui vont au bout, qui sont capables de faire des sacrifices pour ces passions. La cuisine, on va pas se mentir, ça fait partie de ces métiers où il y a des petits sacrifices à faire. On les considère, nous, jamais comme des sacrifices, mais c'en est malgré tout. Et en fait, quand je vois ça chez les gens, quand je vois ce feu sacré chez des jeunes, quand je vois cette envie, cette passion de cuisine, etc., bah, moi, ça me touche beaucoup, parce que je me revois à leur âge, en fait. Donc, il y a cette espèce de miroir et en même temps de transmission qui est à la fois touchante et plaisante.
C'est quoi la différence pour toi aujourd'hui, maintenant, avec le recul, la plus flagrante entre la petite Stéphanie candidate et la Stéphanie aujourd'hui coach?
La confiance en soi, probablement, et puis la maturité, en fait. C'est-à-dire que 28 ans, 43 ans, on n'est pas tout à fait les mêmes. Entre-temps, il y a eu des places de chef. Donc, culinairement parlant, entre-temps, il y a eu place de chef, développer une identité, une étoile, deux étoiles assises maintenant depuis, je ne sais plus, 6, 7 ans. Donc, en fait, ça y est, maintenant, j'ai fini de m'excuser d'être là. J'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur.
Ouais. Ça, c'est un truc qu'on...
Parce que ce côté accélérateur de carrière, effectivement, peut de temps en temps se dire est-ce que je mérite tout ça. Donc en fait, il faut continuer à l'asseoir pour se dire oui, bah en fait, c'était pas juste un hasard, c'était pas juste voilà, non, en fait, c'est là parce que d'abord j'ai beaucoup travaillé et puis parce que effectivement, peut-être on le mérite un petit peu. Donc aujourd'hui, il y a ça, je suis beaucoup plus en phase avec avec ce que j'ai.
Bon, j'aurais encore un milliard de questions à te poser, mais je pense qu'on fera un deuxième épisode un jour.
Plaisir.
Mais pour l'instant, il est l'heure de passer à la séquence de la sauce piquante. Question cash, réponse cash. Première question, selon toi, il y a quoi après la mort ?
Bah, j'espère le paradis. Hein. Non, je pense qu'il y a quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi, mais je pense, ou en tout cas, j'essaie de me rassurer peut-être, mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a un truc. Enfin, il y a une espèce de truc qui nous dépasse.
Toi, tu es croyante ?
Moi, je suis croyante. Okay. Pas pratiquante, mais croyante.
Est-ce que tu aimes la notoriété ?
Je la déteste pas.
C'est joliment répondu. J'aime beaucoup. C'est quoi ta phobie ?
Les souris.
Ah.
Les rongeurs.
Ouais, dans les restaurants, c'est vrai que c'est une vraie...
Mais je peux devenir hystérique. Hein.
Ah ouais ?
Ah ouais.
Ok.
Ça, c'est une phobie physique.
Physique. C'est quoi ton plus gros défaut ?
Non, je suis quelqu'un de très excessif. Dans tout. J'aime trop, je déteste. Je suis quelqu'un de très sanguin, très... C'est très...
Ouais.
Je suis pas soupe au lait, mais je suis en fait je suis passionnée. Donc parce que je suis passionnée, je vis tout intensément. Parce que je vis tout intensément, je le vis souvent avec excès.
Est-ce que tu es millionnaire ?
Alors non, pas encore.
Bientôt ?
Non, je pense
objectif
pas.
De vie ?
Absolument pas. Non, pas d'objectif de vie. J'estime que je dis souvent, si tout devait s'arrêter là, c'est déjà pas mal. En fait, moi aujourd'hui, la vie que j'ai, elle me convient bien. Je veux dire, je vis très correctement. Mes enfants, voilà, je peux élever mes enfants correctement. Enfin, ma vie me va bien telle qu'elle est là. J'ai pas un besoin d'être riche à tout prix. C'est pas le moteur de ma vie.
As-tu vécu des trahisons dans ce métier ?
Oui, on en vit toujours un peu. Le recul, c'est pas très grave.
La dernière fois que t'as pleuré ?
Je pleure. Hein.
T'es émotive ?
Ouais, mais alors, derrière
cette carte,
ouais,
voilà, c'est
bah,
ça.
Ouais, je sais, ça étonne toujours les gens, mais moi je suis très. Et c'est en ça que David est mon rock, parce qu'il est très sensible aussi, mais c'est-à-dire que moi je suis capable de m'effondrer dès qu'il y a un truc qui touche à mes enfants, ou dès que je suis capable de m'effondrer et de perdre même la rationalisation des choses, etc. Donc non, la dernière fois que j'ai pleuré, je pense il n'y a pas si longtemps, parce que des fois je peux pleurer de joie aussi, de fatigue. Je suis très émotive, je peux être très touchée par des trucs, et je peux pleurer dans un film. Hein.
Le truc un peu honteux que tu manges en cachette ?
Des nuggets du McDo.
Oh ! Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Ah ouais, carrément.
Alors attention, hein, il faut qu'il soit bien chaud, tu vois. Pas la boîte qui a déjà traîné 5 minutes sous la langue, qui a perdu le croustillant. Mais le nuggets, vraiment encore hyper brûlant. Mais le nuggets McDo, hein, je sais, c'est terrible.
Mais c'est quoi, ça te rappelle des...
Ouais, mais c'est... Bah oui, c'est des trucs d'enfance. Ma sœur, elle adorait ça.
Okay.
Donc de temps en temps... moi, je fais...
Sauce quoi ?
Barbecue.
Ah ouais, ok.
Ouais, classique.
D'accord.
Mais tu sais, je fais partie de cette génération qui a vu McDo s'installer, en fait. Hein. Moi, quand le McDo est arrivé à Enghien-les-Bains, enfin, c'était un truc, fallait aller faire ton anniversaire là-bas. Hein.
Okay. Est-ce que t'as peur de vieillir ?
J'ai pas peur, mais je commence à vieillir.
Ah bah, on vieillit tous tout le temps, hein, en même temps, hein, on y va.
Non, je suis assez tranquille avec ça.
Okay.
Je trouve que c'est beau de vieillir. Ça peut être très beau de vieillir, en fait.
La dernière chose que tu veux manger avant de mourir ?
Beaucoup de morts, Elvie.
Ouais, j'adore la mort.
Hein. C'est dur.
La dernière chose que tu veux manger avant d'aller au paradis ?
Ah, un bon pot-au-feu.
Ah, bah oui, forcément.
Avec beaucoup de moelle.
Et enfin, est-ce que tu es heureuse ?
Ouais, je suis pas mal.
Et bien sur ce, nous passons à la séquence Balance ton mot. Je te donne un nom et tu me donnes un ou deux mots. Un mot idéalement, mais un ou deux mots pour qualifier la personne en question. Hélène Darroze.
Gentillesse.
Anne-Sophie Pic.
Élégance.
Pierre Gagnère.
Monstre sacré.
Guylaine Arabian.
Je trouve le bon mot.
Si t'as besoin de un ou deux mots supplémentaires pour expliciter...
Bah, déception.
Ok.
C'est pas quelqu'un qui a véhiculé des valeurs... voilà, donc déception, parce que on est tellement peu de femmes en cuisine qu'on se doit de véhiculer des bonnes valeurs, de bienveillance, etc. Et j'ai pas ressenti ça. Alors, c'est peut-être moi qui suis passée à côté, mais c'est pas ce que j'ai ressenti au contact, dans les différents contacts qu'on a eus, y compris il y a pas si longtemps que ça.
Ah oui ? Ah, parce qu'elle était jury à l'époque.
Ouais, ouais, ouais. Et on s'est recroisés une ou deux fois, et je sais pas.
Ça passe pas entre vous ?
Non, ça passe pas, mais après, c'est pas grave.
Ah, il y a des gens avec qui
non,
ça passe,
d'autres
avec qui
voilà,
ça passe pas.
Ça n'enlève rien aux qualités intrinsèques de la personne. Hein.
Philippe Etchebest.
Patron.
Carrément.
C'est le taulier sur Top Chef, tu vois,
ouais.
Philippe, il a ce côté.
Sur M6, ouais.
Ouais, sur M6 en général. voilà, et en fait, je trouve bien dans ce rôle-là, il est bien, quoi. Il tient le truc, quoi.
Il peut faire un peu peur, hein, quand.
Oui, mais.
Même nous, je raconte une anecdote, hein, mais on était là, puis on faisait des photos avec vous. Je sais pas si tu te souviens de ce moment-là, mais on est passé tous à faire des photos, puis à un moment, il nous regarde, il fait: mais vous êtes qui, vous? Il m'a dit: bah, on est des influenceurs, voilà.
Ouais, mais il a un côté très nature, Philippe. Il a un côté, tu vois, il est pas, comment dire, il a pas été, il est dans la vie comme il est à la télé, il est un peu cash, mais il y a pas de, c'est quelqu'un
de méchanceté.
Non, c'est quelqu'un de profondément gentil. C'est un nounours, hein.
Paul Perret.
Génie.
David Lekelec.
Amour.
Et Stéphanie Lekelec. Génie.
Non, maman, parce que je pense que quelque part, c'est la version de moi que je préfère.
Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Alors, c'est la fin, quasiment la fin, puisqu'il reste une petite question, mais cette fois-ci, c'est toi qui vas pouvoir me la poser. C'est la tradition dans cette émission. Je suis obligé de répondre la vérité. Tu as le droit à une et une seule question. On inverse les rôles.
Qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé aujourd'hui dans cet univers de la food?
Alors, c'est très simple, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, et même on me dit parfois: tu t'ennuies pas de faire tout le temps ça? Mais en fait, c'est les gens. Voilà. C'est les humains qu'il y a derrière. Chaque restaurant, il y a une histoire de vie différente. On parlait de reconversion professionnelle, il y a des parcours, il y a des visions de la cuisine, il y a des visions de ce qu'ils veulent faire, du métier, qui sont différentes. Moi, c'est l'humain qui me passionne. Évidemment, j'aime bien manger, mais ce que je trouve génial, c'est les humains qu'il y a derrière.
Ouais, c'est l'histoire qu'il y a derrière.
Exactement. Merci en tout cas d'avoir été là. Alors, pour finir, la fin de cette séquence. Alors, je t'invite à prendre le livre.
Alors, je te signe.
Et écoute, avec plaisir. Si on peut amener un petit stylo d'ailleurs. Tiens, merci. Je t'en prie. Je le lis ou je le garde pour moi?
Ah, c'est comme tu veux. Moi, je suis très transparente, très à l'aise. Hein.
Pour Alexis, pour toujours cultiver le goût de la mémoire, merci pour cet échange. Avec toute mon amitié, Stéphanie Lekelec. En tout cas, merci beaucoup. J'ai été vraiment honoré de te recevoir.
J'étais très heureuse d'être là.
J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter également cette vidéo. Pour terminer, la tradition veut que je vais te laisser toute seule. Tu as 30 secondes pour terminer comme tu veux cette émission. Alors, tu peux aussi bien faire de la promo pour ton livre, pour tes restos. Tu peux raconter une blague, tu peux parler de ce que tu veux. Je te laisse.
Alors là, moi, je suis face caméra toute seule.
Toute seule, ouais.
Tu sais que c'est un exercice très difficile, même quand on fait de la télé, ça.
Bah écoute, tu peux faire une sieste. Merwan avait fait une sieste.
Merwan
en tout cas, merci et je te laisse.
J'ai pas le temps de dormir l'après-midi, moi.
30 secondes.
Non, bah merci Alexis pour cette invitation, pour cet échange. C'est toujours hyper plaisant pour un chef de pouvoir se raconter un peu différemment, de pouvoir sortir de sa cuisine et de pouvoir parler de ce qui fait qu'on aime faire la cuisine et pas forcément parler de ses maisons. Donc je pense qu'on a déjà parlé, j'ai pas besoin de redire où on nous trouve, mais voilà, moi c'est très plaisant. L'humain, c'est aussi ce qui m'anime. Et voilà, donc merci à tous ceux qui écouteront, regarderont cet échange, et puis au plaisir de vous rencontrer à table.
Merci.